Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Beni au Nord Kivu. Voici le titre de votre journal. La province du Sud Kivu, confrontée à une épidémie de choléra depuis quelques jours, avec une flambée de cas observés dans les trois zones de santé urbaine de Bukavu. Presque 200 cas sont enregistrés chaque semaine au centre de traitement de choléra situé à l'hôpital général de Bukavu. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit dernière a fait au moins 8 morts à Kassindi, cité située à 80 km de la ville de Beni. Une situation à la base de la paralysie de toutes les activités socio-économiques dans cette cité frontalière de l'Ouganda. Notre invité est le docteur Kimulinganya, médecin directeur de l'hôpital général provincial de Bukavu, au Sud Kivu. Il revient sur l'épidémie de choléra qui frappe la province en ce moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. La province du Sud Kivu connaît une épidémie de choléra depuis quelques jours maintenant. Une flambée des cas de choléra qui s'observe plus dans les trois zones de santé urbaine de Bukavu. Presque 200 cas sont enregistrés chaque semaine au centre de traitement de choléra situé à l'hôpital général de Bukavu. Que faire pour lutter contre l'expansion du choléra à Bukavu? Docteur Guy Mulinganya est au micro d'Emmanuel Elamejo Akabedi.
C'est bien à l'hôpital provincial général de référence que se situe le centre de traitement de choléra. Et donc, le choléra, c'est une épidémie. Et on doit dire qu'on a eu beaucoup de cas, surtout ces derniers temps. Situation qui a été accentuée par la pénurie d'eau dans la ville, mais aussi la période. Mais je dois dire aussi qu'il y a eu un relâchement important de mesures barrières qu'on utilisait contre le virus Ebola et le coronavirus. Avec ces relâchements de mesures barrières, nous avons une flambée d'épidémie et donc je pense qu'on a un gros morceau. La semaine passée, on a clôturé avec 254 malades et aujourd'hui, à ce jour, nous avons 34 malades au niveau du centre de traitement de choléra.
Donc par jour ou par semaine, c'est environ combien qui arrive?
En tout cas, plus de 200 par semaine. Donc c'est quand même une situation alarmante.
Il y a des décès qui sont enregistrés ici?
Oui, il y a eu certains décès qui ont été enregistrés au niveau de CTC et d'autres corps inanimés qu'on m'a amené ou qu'on mettait au niveau du centre de traitement de choléra et pourtant ils étaient déjà...
Situation similaire dans la province du Tanganyika. La prise en charge des cas suspects de choléra s'active dans la zone de santé de Kiambi, en territoire de Manono. D'après le médecin-chef des zones de santé qui s'est confié ce lundi à Radio Kapi, il y a le gouvernement provincial, les partenaires et certains particuliers qui apportent des médicaments et autres intrants pour les soins des malades. Jérôme Kyungu souligne que le nombre de cas est en hausse. Il ajoute que depuis le 20 mai dernier, la zone de santé de Kiambi a enregistré plus de 300 cas suspects de choléra, dont une vingtaine de décès. Il a été joint par Paul Mounanga.
Nous avons déjà des partenaires, un partenaire qui œuvre sur la mesure préventive et aussi des infections des ménages et chloration d'eau. Il y a un autre partenaire qui œuvre sur la prise en charge curative, c'est l'MSF, qui existe pour 3 heures de santé, Piana, Kabunda et Lengue. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 heures de santé qui continuent à notifier les nouveaux cas. Entre autres, il y a Chamwana, Monga, Lengue, Piana, Kabunda, Kazingu, Kiambi. La prise en charge partout là, elle est effective, mais dans d'autres aires de santé, là, il n'y a pas MSF. La prise en charge est là, mais avec beaucoup de difficultés. Du fait que pour trouver les intrants, il faut se débrouiller. Comme la fois passée là, il y a eu des honorables qui nous ont aussi aidés. Entre autres, il y a l'honorable Kabweloulou et aussi l'honorable Kakudjiwama. Le gouvernement nous a même donné au moins 250 Baxter DRL.
Dans le territoire de Beni, plus de 9000 habitants du village de Samboko, à 60 km de Beni, sont sans assistance sanitaire depuis 5 ans. Seuls les soins préventifs sont administrés aux malades, mais les cas graves sont transférés à Oicha, à plus de 30 km. L'infirmier titulaire du centre de santé de Samboko lance un cri d'alarme pour la réhabilitation de la structure sanitaire de ce village. Mate Mupande est au micro de Marc Marofimbo.
C'est suite à la sécurité, parce que le centre de santé a été brûlé par les ADF, c'était en 2018, au mois de mai. Vous voyez que tout ça soigne ici, la maternité soigne, on a brûlé le dispensaire, le polyclinique, on a brûlé. C'est pourquoi ici, nous, on fait le service préventif seulement à la vaccination. La population se débrouille, va à Ouicha, surtout, et c'est ça qui est difficile. Il faut d'abord réhabiliter les bâtiments, parce que les médicaments peuvent être offerts par les BCZ. Ici, c'est la pneumonie, il y a les IST, il y a les maladies hydriques, parce que vous voyez, il n'y a pas d'eau potable ici. Nous demandons l'assistance, qu'on puisse venir nous appuyer, sinon la population va mourir.
Au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit dernière a fait au moins 8 morts à Kassindi, cité située à 80 km de la ville de Beni. Les corps des victimes, toutes des civils, ont été ramassés par la population qui se démène pour les amener à la morgue. Des sources locales parlent également des personnes portées disparues. Pendant ce temps, toutes les activités socio-économiques sont paralysées dans cette cité frontalière de l'Ouganda. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Selon la nouvelle société civile congolaise dans le groupement de Basongor à Kassindi, c'est aux environs de 20 heures locales que les ADF ont fait incursion dans le quartier congo-yassika de Kassindi. Le bilan provisoire fait état de 8 civils tués, des maisons et engins roulants incendiés. Denis Kalenga, président de la société civile du groupement de Basongor, a décrit la situation.
Il y a déjà 8 corps qui ont été découverts. Il y a aussi des portées disparues, une maison incendiée et un véhicule d'un Somalien qui a été touché par balle. Bon, jusque-là, il n'y a aucune nouvelle, ni l'armée, ni la police. Ni les autorités, personne ne s'est prononcé quant à ça, ne disent rien. On ne sait pas comment ils gèrent la situation.
La chef de la liaison de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Action globale pour la promotion sociale, active dans la région, condamne, je cite, cette barbarie. Elle demande au gouvernement de prendre au sérieux la situation de l'Est. Pelagie Lumbulumbu.
Nous demandons aux autorités locales, provinciales, nationales, de prendre les choses au sérieux, qu'on ne nous délaisse pas. Nous sommes aussi les Congolais comme tout autre Congolais. Ça fait très mal, en tout cas.
Nos efforts pour avoir les réactions des autorités locales et des services de sécurité à ces sujets sont restés vains. Pendant ce temps, la population continue avec les fouilles dans les quartiers où les bilans risquent de s'alourdir, ajoute le président de la société civile du groupement de Basongora. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Le ministre de la Défense est arrivé ce lundi à la mi-journée à Goma, au Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba n'a pas pour l'instant fait aucune déclaration à la presse. On croit savoir que son agenda prévoit une inspection de nombreuses troupes positionnées au Nord Kivu en raison de la guerre contre le M23 et les ADF. Au Kasaï, la société civile dénonce la recrudescence de l'insécurité depuis un mois maintenant à Chikapa. Des bandits armés attaquent des citoyens jusqu'à tuer et cambrioler des maisons. Le dernier cas en date remonte à ce week-end où ces malfrats ont cassé une maison tirant sur les propriétaires et emporté une grosse somme d'argent, alerte les coordonnateurs du consortium des organisations de la société civile locale. Indiquant que la personne blessée par balle est présentement à l'hôpital, Gilbert Ngoy appelle les autorités à sécuriser les personnes et leurs biens. Il l'a dit à François Kadima.
L'insécurité est grandissante dans la ville de Chikapa. Il y a un mois, nous avons enregistré près de 10 cas, si pas des cambriolages. Ce sont des paisibles citoyens qui sont lâchement abattus ou qui sont blessés par balles. Nous allons citer les cambriolages de la résidence de la coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme qui a vu tous les biens de sa maison emportés. Au-delà de ça, il y a le médecin Albert Mouela, qui a été visité également par ces hommes. Très dernièrement, le magistrat Danis Akinkolomouni a été lâchement abattu alors qu'il revenait d'un voyage missionnaire. Et aux environs de 3 heures, ces mêmes hommes armés qui se sont transportés dans la maison de Monsieur José Mukaya, ils ont réussi à emporter une importante somme d'argent. Ils lui ont également tiré dessus. Au moment où je vous parle, M. José Mukaya a 3 blessures à la jambe droite à la suite des tirs qu'il a eu à recevoir et son cas nécessite l'évacuation.
Reboiser la ville de Bukavu, planter les arbres, c'est en ces termes que le ministre Gilbert Kabanda, notable de cette ville, s'est adressé à la population du site Kivu à travers des échanges entre ses ressortissants vivant à Kinshasa. Partant d'une rencontre initiée hier dimanche par l'association culturelle des Bashibaavu, un cahier des charges a été remis aux ministres et mandataires qui ont été nommés ou reconduits dans le gouvernement, au sein de la police nationale et dans les FARDC. Essentiellement des projets à réaliser dans le souci de combattre des calamités naturelles à répétition dans cette province, mais aussi faciliter les mouvements de population à travers ces 8 territoires. Des détails avec Chris Bandundu Kapalai.
Des échanges qui ont permis au président de cette association culturelle d'interpeller ses convives, Joseph Kinzo.
À travers le ministre présent, nous voulons rappeler que le Sud Kivu traverse aussi des moments très difficiles. Il ne faut pas oublier que pour aller à Uvira, à Fizi, nous devons passer par le Rwanda. C'est inacceptable. On n'a pas de route pour arriver à Shabunda. On ne peut pas arriver à Walikale, à Mwenga.
La problématique des routes a été aussi abordée. Marie-Gisèle Massawa, présidente de l'ADEN.
Du projet d'aménagement et de bitumage de la route Goma-Bukavu, des projets de construction et de modernisation de la RN5 Bukavu-Nyangezi-Kamanyola-Uvira, des routes Bukavu-Shabunda et Bukavu-Mwenga.
En réaction, le ministre Gilbert Kabanda, en sa qualité de doyen en âge dénominé, a prodigué ses conseils.
Planter des arbres tout au long de la fissure. Des arbres qui ont comme caractéristique de retenir le sol. Et ces arbres s'appellent l'eucalyptus. Reboiser la ville de Bukavu.
À chacun de contribuer à la protection de la ville et de la province du Sud Kivu, on conclut ces notables vivant à Kinshasa.
Et puis Radio Okapi vous propose dès ce jour une série de reportages pour faire un peu plus de lumière des cas d'incendie des maisons devenus récurrents dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Plus de 1000 maisons ont pris feu dans 3 cas d'incendie en l'espace de 2 semaines, en mai et en juin 2023. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés, faisant des milliers de sans-abri. Sans oublier les autres sans-abri victimes d'incendies de leur maison les années antérieures. Pour ce premier numéro, Emmanuel Elamejo Akabedi revient sur les causes de cette situation, notamment la mauvaise urbanisation de la ville de Bukavu. Suivez son reportage.
C'est depuis la fin du mois de mai dernier que des cas d'incendie se multiplient dans divers quartiers de la ville de Bukavu. Une centaine de maisons calcinées à Chimpunda, à Kadutu, près de 1000 maisons brûlées sur l'avenue Kanzaïr et une vingtaine de maisons parties en fumée à Irambo et sur l'avenue Kebombo. À cette allure, la ville de Bukavu risque de disparaître. Olive Moudekereza, député national.
Il faut l'aménagement du territoire, il faut de nouvelles urbanisations de nos villes. La ville de Bukavu risque de disparaître. Les incendies n'épargnent personne. Un voisin peut construire une très belle maison, mais le fait qu'il vient de chez l'autre peut embraser ta maison. Sinon, la ville de Bukavu va disparaître, soit par des incendies, soit par les érosions, soit par les éboulements.
La propagation du feu est favorisée par la promiscuité des maisons d'habitation. Le bourgmestre d'Ibanda attribue cette situation au manque d'urbanisation dans sa municipalité. Jean Baléke.
Pour pouvoir lutter contre les incendies de manière durable, il faut respecter l'urbanisation. Les problèmes que nous avons à Bukavu, les maisons sont collées sur elles-mêmes. D'une maison à une autre, il n'y a pas de passage. Et quand cette maison brûle, l'autre doit nécessairement brûler aussi.
Parmi les victimes des cas d'incendie, ce sont des élèves et des étudiants qui perdent presque tout et ne savent plus poursuivre avec les études. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Sous un autre chapitre dans la province du Maniema, la Commission électorale nationale indépendante ouvre ce lundi à Kindu dans la salle Saint-Joseph une formation des membres des bureaux de réception de traitement des candidatures BRTC. Durant 8 jours, les participants vont se familiariser avec des notions sur les problématiques des réceptions et des traitements des candidatures ainsi que les procédures d'accréditation. On écoute à ce sujet Émile Dimoke-Tamboué, secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le remarquez, nous venons de lancer les niveaux D de la cascade de formation. Après la cascade qui avait été organisée à Kinshasa, nous sommes maintenant au niveau 2, au niveau du chef-lieu de notre province. Nous sommes en train de former le membre du bureau de réception et de traitement des candidatures, mais aussi les membres de BIRAC, c'est-à-dire le bureau d'accréditation. Nous sommes en train de les familiariser avec les procédures pour les deux opérations qui vont bientôt commencer. Comme vous le savez, selon les calendriers révisés, la convocation de l'électorat est prévue le 25 juin 2023. Juste après la formation, c'est l'ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures. Et bien entendu, nous allons commencer à recevoir les dossiers de candidature des candidats, n'est-ce pas? De tous ceux-là qui seront intéressés par cette question, les candidats députés nationaux, provinciaux, à des dates bien précises. Ils mettront 8 jours en train d'étudier les procédures pour les deux opérations.
Actualité internationale.
Les forces de sécurité et de défense du Mali ont voté lors du scrutin anticipé avant le référendum sur la nouvelle constitution qui s'éteindra le 18 juin dans une étape retardée vers un retour à un régime civil dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ravagé par l'insurrection. En mai dernier, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a lu un décret à la télévision d'État disant que le pays serait appelé à se prononcer sur la constitution en juin. Au Gabon, le Sénat vient d'adopter la proposition de loi sur la parité homme-femme dans ce pays, un projet de loi qui vise à permettre l'accès aux mandats électoraux et fonctions électives dans le pays.
L'invité.
Notre invité est le docteur Guy Moulinganya, médecin directeur de l'hôpital général provincial de Bukavu, au sud Kivu. Il revient sur l'épidémie de choléra qui frappe la province en ce moment. Docteur Guy Moulinganya répond aux questions d'Emmanuel Elamejo Akabedi.
Docteur Guy Moulinganya, bonjour.
Bonjour.
C'est ici où est installé le centre de traitement de choléra. Quelle est la situation de choléra à ce jour?
Merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question. C'est bien à l'hôpital provincial général de référence que se situe le centre de traitement de choléra. Et c'est là depuis plusieurs années, plus de 15 ans actuellement. Et donc, le choléra, c'est une épidémie. Et on doit dire qu'on a eu beaucoup de cas, surtout ces derniers temps. Situation qui a été accentuée par la pénurie d'eau dans la ville, mais aussi la période. Mais je dois dire aussi qu'il y a eu un relâchement important de mesures barrières qu'on utilisait contre le virus Ebola et le coronavirus, qui nous ont permis de diminuer fortement le taux de choléra dans la ville de Bukavu. Avec ces relâchements de mesures barrières, nous avons une flambée d'épidémie et donc je pense qu'on a un gros morceau. La semaine passée, on a clôturé avec 254 malades et aujourd'hui, à ce jour, nous avons 34 malades au niveau du centre de traitement de choléra.
Donc par jour ou par semaine, c'est environ combien qui arrive?
En tout cas, plus de 200 par semaine, donc c'est quand même une situation alarmante.
Il y a des décès qui sont enregistrés ici?
Oui, il y a eu certains décès qui ont été enregistrés au niveau de CTC et d'autres corps inanimés qu'on m'a amené au niveau du centre de traitement de choléra et pourtant ils étaient déjà morts.
Comment se fait la prise en charge ici? Vous dites que ce centre existe depuis plusieurs années. Comment ça se passe dès que les malades arrivent?
Aussitôt que les malades arrivent, ils sont acheminés directement au niveau du centre de traitement de choléra et on les accueille. Tous les signes vitaux et tous les préalables sont réalisés et il y a toute une équipe qui est là pour faire ce travail. Nous devons dire un grand merci à MSF Espagne, MSF Hollande, à la Division Provinciale de la Santé, à l'UNICEF. En tout cas, ce sont des partenaires qui nous appuient pour la prise en charge. Et je dois dire merci aussi à toute notre équipe de l'Hôpital Provincial Général des Références de Bukavu qui participe dans cette prise en charge.
Donc avec votre hôpital général provincial et tous les partenaires que vous venez d'énumérer, donc la prise en charge est gratuite pour le choléra?
Tout à fait, la prise en charge est gratuite. Je dois dire que c'est une maladie dite de main sale, une maladie liée à la pauvreté. C'est une maladie qui montre l'inéquité de la distribution de ressources dans des pays. Et sur ce, la prise en charge est gratuite, mais nous demandons d'aller plus vers la prévention et la promotion de la santé. La prévention, c'est-à-dire que recourir à l'usage des mesures barrières, donner de l'eau qui soit propre, qui soit potable au niveau des populations. Et cela suppose que la chaîne de transmission va être coupée en amont et on n'aura pas beaucoup de cas au niveau de l'hôpital.
Donc vous pensez qu'il faut intensifier en amont le travail de la prévention?
Tout à fait. Au-delà de la gestion des urgences, je pense qu'il faut un programme qui va faire en sorte que la chaîne de transmission soit coupée. C'est-à-dire qu'on doit donner de l'eau. Ça, c'est vraiment le minimum.
L'eau potable
à donner à la population. Et je pense que le gouvernement doit s'atteler à faire ce plaidoyer pour qu'on ait de l'eau potable, surtout dans les quartiers les plus défavorisés, d'où viennent tous ces cas de maladies.
Et pendant ce temps, vous dites que la flambée actuelle, c'est parce qu'on a eu un relâchement des mesures barrières qui étaient observées contre Covid. Donc, vous pensez qu'il faut retourner à l'observance de ces mesures barrières-là?
Tout à fait. Surtout le lavage de mains. Parce que le choléra, c'est une maladie de mains sales. À l'époque de Covid, on avait les mains et Corona, on avait les mains. Et donc, ça nous permettait de lutter contre ces transmissions de ces bactéries. Mais actuellement, il y a eu un relâchement, ce qui fait en sorte que la transmission manoportée est très élevée. La seule chose, c'est de demander à la population de laver les mains et surtout de laver les fruits qu'ils mangent, parce qu'il faut bien laver les fruits et il faut utiliser du sel qu'on doit mettre dans l'eau pour laver les fruits, et cela pendant 5 minutes, le temps que les microbes puissent pratiquement éclater, lié à l'effet de l'osmolarité du sel. C'est un élément très important, donc il ne faut pas laver les fruits seulement à l'eau, mais il faut les mettre dans une eau qui contient un peu de sel. C'est une astuce qui permet de diminuer fortement la transmission par les fruits.
Docteur Guy Moulinganya, merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, le docteur Guy Moulinganya, médecin directeur de l'hôpital général provincial de Bukavu. Il s'entretenait avec Emmanuel Elameji Wakabedi. Fin de cette grande édition du journal parlé, coordonnée par Élisée Tikota Tivueta et supervisée par Martin Sebou-Djangwe. La mise en onde a été assurée par Bob Landou et Willem Lungamba. Merci de continuer à écouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.